Bienvenue à cette édition de Conduite Antisportive sur les ondes de Chiz 94.3, Charles Leblanc à l'animation. Aujourd'hui, pour la première partie, je suis en compagnie de Félix Lajoie, animateur de l'édition du lundi, spécialiste soccer aussi. Fait que, comment ça va, Félix?
Ça va bien, et toi, Charles?
Ça va super bien aussi. Au programme aujourd'hui, c'est pas compliqué. Première partie, Coupe du Monde. On va parler de, c'est ça, des différentes sélections. Puis au deuxième, en deuxième partie, Victor Marchand va nous rejoindre pour parler de la Coupe d'Andemar. Fait que sans plus tarder, on va passer au premier bloc. Donc, Coupe du Monde, les équipes ont été dévoilées cette semaine. Presque toutes les équipes, là, dans le fond, les équipes intéressantes, il manque le Canada puis le Mexique. Est-ce que tu as une équipe favorite pour cette année?
Eh bien, je te dirais qu'une équipe que je vois aller très loin, c'est le Brésil. Mais évidemment, je vais surveiller l'Argentine pour Lionel Messi, tout simplement. Mais je pense que le Brésil va aller très loin, puis le Canada, évidemment. Toi?
Moi, au début, j'aurais dit la France. Mais là, avec les blessures de Kanté et Pogba, je suis pas certain. J'ai hâte de voir ce que le Brésil va faire aussi. Là. C'est pas la dernière chance, mais ça fait un bout que Neymar est là. Ils ont pas super bien performé. Là, on se rappelle la défaite de 7-1 contre l'Allemagne. Je pense que cette année, ça peut être leur année. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la France? Qu'est-ce que tu penses que ça va donner? Est-ce qu'ils peuvent répéter?
Ouais, ben je pense que la France, ça va être compliqué. Premièrement, bon, il y a Pogba et N'Golo Kanté qui seront pas là. C'est sûr que ça va être compliqué au milieu de terrain. Il y a des jeunes qui poussent, mais encore là, c'est pas de la trempe à Pogba ni Kanté. Puis en ce moment, il y a beaucoup de drames autour de l'équipe. Il y a beaucoup de controverses. Là. Il y a l'ego de Kylian Mbappé qui ne prend pas les photos d'équipe avec le reste des joueurs. Il y a l'histoire du marabout de Paul Pogba. Donc, qui envoie des sauces, on peut dire ça, à certains joueurs de l'équipe de France. Bref, il y a plein de controverses. Donc, à l'aube de la Coupe du Monde, c'est pas vraiment l'idéal pour une équipe comme ça. Mais bon, ils ont le talent dans l'effectif, ils peuvent répéter assurément. Après, bon, il y a beaucoup d'autres nations qui sont très fortes, donc c'est sûr qu'une Coupe du Monde, des fois, c'est de la chance également. Puis c'est également une question de mentalité, de système de jeu. Et puis du côté de la France, on a la même mentalité qu'en 2018, ça devrait bien aller, mais on sait jamais.
Est-ce que tu penses que c'est peut-être la dernière Coupe du Monde pour Didier Deschamps?
Eh bien, je te dirais qu'avec Zinedine Zidane, qui a fait une très belle carrière d'entraîneur au Real Madrid, je pense que peut-être que Zidane pourrait être intéressé à coacher la sélection française. Mais pour l'instant, je pense que Deschamps, c'est l'homme de la situation, jusqu'à preuve de contraire. Donc, pour l'instant, je pense que Deschamps va rester. Mais d'ici 2-3 ans, peut-être que Zinedine Zidane sur le banc, ça serait peut-être pas refusé.
Ouais, ben, c'est ça. Je partage un peu ton opinion. Là. Je pense que Didier Deschamps, il a gagné une Coupe du Monde, une finale d'Euro. On s'entend qu'il a fait, il a une carrière à envier. Mais quand t'as un remplaçant de luxe comme Zinedine Zidane, t'as peut-être tendance à être un peu moins patient. Donc on verra ce qui va arriver avec ça. Pour revenir à leur milieu de terrain, sur les ailes, au centre, avec Griezmann, ça va, mais avec, je pense, Rabiot risque d'avoir un poste de titulaire, lui qui n'était même pas dans la sélection la dernière fois. Ça me pose un peu des questions. Là. Je me demande ce qui va arriver avec ça.
Ouais, c'est sûr qu'au milieu de terrain, il y a beaucoup de questionnements. Adrien Rabiot, qui est un joueur qui n'a pas vraiment joué lors de la dernière Coupe du Monde, n'était même pas là, je crois. Donc là, ça va être compliqué. Est-ce qu'il peut prendre le milieu de terrain? Il y a deux jeunes joueurs, Kamavinga et Tchouaméni. Ils sont très, très jeunes. Ils ont encore de l'expérience à prendre. Rabiot, c'est un joueur qui a quand même joué dans des bons championnats. Donc, il pourrait jouer au milieu de terrain. Peut-être qu'il commencera même, mais c'est là. C'est à ce moment-là que tu regardes un peu l'effectif et tu te dis, bon, si on est rendu à Rabiot, c'est que le problème est probablement milieu de terrain, mais devant Griezmann, Mbappé, là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là.
Benzema aussi, qui fait pas son retour parce qu'il avait joué à l'Euro, là, mais il a été longtemps mis à l'écart. J'ai hâte de voir une attaque là, avec lui, Mbappé, Griezmann, Dembélé aussi, qui risque d'avoir sa chance sur le 11 partant. Mm-hmm. Ça va être une équipe à surveiller. Sinon, là, je t'ai parlé de tes favoris. Est-ce que tu as une équipe préférée si, mettons, on exclut le Canada? Là?
Si on exclut le Canada, moi, je veux vraiment regarder l'Argentine attentivement. Pour Lionel Messi, donc, Lionel Messi, il mérite une Coupe du Monde. Il a tout fait sauf gagner une Coupe du Monde. Bon, il a un très bon pays. L'Argentine, quand même, une bonne équipe. Ils ont perdu en 2014 en finale face à l'Allemagne. C'est une équipe que j'adore. C'est une équipe qui, auparavant, n'avait pas vraiment une grosse défense. Donc, c'est peut-être un peu là le problème. Mais là, cette année, ils ont beaucoup de jeunes qui sont dans leur prime, si on peut dire ça, dans leur meilleur moment de la carrière. Puis, c'est des joueurs qui, défensivement, vont pouvoir faire du bien à Messi. Et puis, Messi, il a remporté la Copa América avec l'Argentine, donc récemment. Donc, ça leur donne un peu un envol. Et puis, ils sont en confiance. Donc, ils arrivent dans cette Coupe du Monde, ils sont confiants. Messi, c'est sa dernière Coupe du Monde. Une victoire pour lui avec la mort de Maradona qu'il y a eu plus tôt, ça serait vraiment parfait pour lui. Pour l'Argentine, c'est tout un pays qui attend la Coupe du Monde avec impatience.
Ouais, même chose pour moi. Là, quand j'étais plus jeune, ben, en fait, encore un peu en ce moment, là, mais mon équipe préférée, c'était l'Italie. Là, ben, je peux pas prendre pour eux, ils sont pas là. Mais fait que je vais me tourner vers l'Argentine aussi. Messi, c'est mon joueur préféré. Là. En fait, non, mon joueur préféré, c'était Buffon. J'ai jamais été un gardien. Je sais pas pourquoi mon joueur préféré, c'était un gardien. Mais c'est ça, moi aussi, je souhaite une Coupe du Monde à Messi. Je pense qu'il le mérite. Là. Selon moi, c'est le plus grand joueur de tous les temps.
Ouais.
J'allais te demander Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, mais je pense que tu as un peu répondu. Là.
Ouais, ben c'est sûr que je te dirais Messi direct, mais bon, Ronaldo, en ce moment, c'est pas la meilleure forme pour lui. Bon, cet été, il voulait partir de Manchester United, finalement, il s'est pas trouvé de club. Il voulait jouer à la Ligue des Champions, c'est pas arrivé, il joue en Ligue Europa. Cette saison, il est sur le banc, il quitte le banc plutôt pour aller au vestiaire avant la fin du match. Donc bon, ça va pas très bien pour lui. Cet hiver, il va probablement changer de club, mais ça reste quand un joueur comme Ronaldo, c'est ton effectif à la Coupe du Monde, à tout moment, il peut se réveiller, il peut se mettre au service du collectif et puis il peut mettre des buts pour aider le Portugal, qui ont une très belle équipe d'ailleurs. Donc, selon moi, Ronaldo peut faire une très belle Coupe du Monde, mais ça reste que je suis team Messi de mon côté.
Ah, moi aussi. Mais Ronaldo, je le compare un peu à Tom Brady. Là, saison un peu difficile, c'est ça, avec Manchester United, t'en as parlé, mais dans les grands moments, là, c'est le genre de joueur qui se lève. T'as parlé de l'équipe de l'Argentine. Moi, j'ai tendance à croire que l'équipe du Portugal est un peu meilleure, plus complète. C'est sûr qu'il y a des jeunes là, au milieu puis à la défense du côté de l'Argentine, mais c'était souvent ça un peu la faiblesse de l'Argentine. Là. C'était beaucoup d'attaques puis pas grand-chose en arrière.
Oui, évidemment, effectivement, également. C'est une équipe qui avait une défense quand même assez vieille du côté de l'Argentine. Donc, tu sais, des Demichelis dans le temps, Otamendi, c'est des joueurs qui étaient vieux. Là, maintenant, il y a un renouveau de jeunesse, mais t'as raison, l'équipe du Portugal, sur papier, elle est meilleure que l'équipe de l'Argentine. En défense, on a Raul Cancelo, Ruben Dias, on a également Diego Dalot et puis Nuno Mendes, c'est des joueurs qui jouent dans les plus gros championnats d'Europe. Et puis devant, t'as des joueurs comme Raul Félix, Rafael Leao, au milieu de terrain.
Bernardo
et également...
Silva aussi.
Ouais, c'est ça, exactement. Bruno Fernandes. Donc c'est vraiment un beau collectif, cette équipe du Portugal. Elle nous a montré qu'avec pas grand-chose, elle peut faire des miracles ou des bons résultats à l'Euro 2016. Ils avaient devant, ils avaient Eder, ils n'avaient pas une équipe qui était loin d'être autant bonne qu'ils ont cette année, puis ils ont quand même rapporté l'Euro devant la France. Donc là, tu ajoutes plein de joueurs de talent comme ça pour aider Ronaldo. Je pense que c'est une très belle équipe.
Ouais, c'est ça. Il était pas favori face à la France en plus, mais c'est ça. C'est la Coupe du Monde, la dernière chance pour ces deux légendes. Je sais pas si tu as vu, EA Sports l'a fait une simulation pour le dans le fond qui allait sur leur jeu là, qui allait gagner la Coupe du Monde. Ça a tombé sur l'Argentine,
tant mieux.
Si je me trompe pas, il avait bien prédit les dernières aussi là, fait qu'on souhaite même si c'est ça, c'est plus le ils sont plus dans leur prime là, c'est plus les joueurs aussi dominants là, on voyait au Ballon d'Or. Ça a longtemps été, pendant une décennie dans le fond, c'était Messi ou Ronaldo là, ils étaient même pas dans les 10 premiers.
Ouais, c'est ça. C'est une Coupe du Monde un peu particulière, car oui, elle est dans le milieu de la saison. Mais d'un autre côté, c'est la dernière Coupe du Monde de Luis Suarez, Messi, Ronaldo, Lewandowski, tous des joueurs. Bon, Lewandowski, tu me diras, il n'a pas fait beaucoup de Coupe du Monde, mais c'est tous des joueurs qui, au niveau des clubs, sont très marquants. Des grands joueurs type Buffon, il n'est même pas à la Coupe du Monde. C'est des joueurs comme ça que quand on regardait, on était tout petit.
Ouais, quand on a grandi avec ces joueurs-là.
Ouais, c'est ça. Et là, ils ne seront plus là. C'est la nouvelle génération. Ansu Fati, Jude Bellingham, Pedri, Gavi, qu'on a parlé tantôt. C'est des jeunes joueurs qui vont arriver qu'on ne connaît pas beaucoup, mais pourtant qui vont faire leur tracé, Mbappé notamment, qui vont vraiment avoir un impact sur cette Coupe du Monde, alors que des joueurs comme Messi et tout, bon, c'est leur dernière chance, c'est plate, mais c'est une nouvelle génération qui s'en vient.
Tu parlais de nouvelle génération, d'ancienne génération. Moi, ça me marque à quel point, quand j'étais plus jeune, le Pays-Bas, c'était une puissance. Là, ils font la Coupe du Monde cette année, mais la dernière, ils n'étaient pas là. C'est plus la puissance que c'était. Là, ils ont encore des... Van Dijk, le défenseur de Liverpool, Depay, mais tu sais, on est loin de Ruben et Van Persie et compagnie. Là.
Ouais, on est loin d'Ariane Robben, Van Persie. T'as dit, moi je pense dans le temps, j'étais pas nu, mais Bergkamp, Cruyff, c'est des joueurs qui ont marqué l'histoire des Pays-Bas. Les Pays-Bas qui n'étaient pas qualifiés à la dernière Coupe du Monde. Là, ils arrivent, ils ont quand même un groupe assez facile. Tu me diras, le Qatar, l'Équateur, le Sénégal. Le 14, tu sais, c'est pas une équipe qui... tu sais, je sais pas tes prédictions, mais selon moi, le 14, l'Équateur, ça n'embêtera pas les Pays-Bas.
Non, probablement pas.
Non, exact. Donc, c'est une équipe qui est quand même des jeunes qui poussent. Donc, Frenkie de Jong, Van Dijk, il est quand même rendu vieux, mais ça reste un joueur qu'on ne connaissait pas avant 2-3 ans. Et puis, il y a des joueurs comme De Jong, il y a Xavi Simons, très, très jeune, qui a fait l'équipe. Cody Gakpo, c'est des jeunes joueurs qui jouent... Ce sont des produits de la ligue hollandaise, si on peut dire ça comme ça. C'est des produits de cette ligue-là qui maintenant jouent en Europe parmi les meilleurs clubs. Donc, c'est des jeunes joueurs qui poussent, mais cette génération des Pays-Bas, ce n'est pas celle qu'on a connue auparavant lorsqu'on était jeune.
On va voir si les jeunes progressent, peut-être dans la prochaine ou l'autre. Là, ça devient des grands comme... c'est ça, là, on a parlé Robben et Van Persie et compagnie. Je reviens à la France aussi, mais le... leur défense, c'est pas la même. Il est plus jeune aussi un peu. Là, Umtiti qui a complètement sacrifié sa carrière pour une Coupe du Monde. C'était un peu une histoire triste. Là.
Ouais.
Après ça, il n'a jamais réussi à faire sa marque au FC Barcelone. Je sais même plus où il est rendu en ce moment. Ouais, je sais pas s'il joue encore.
Il joue pour un club de bas de division 1 en Italie. Il joue pas vraiment beaucoup. Il joue à Lecce. Bref. Mais oui, t'as raison, Umtiti. Tu regardes la Coupe du Monde 2018, la défense, elle était impériale. Varane, Umtiti, Pavard qui avait mis un super but. C'était vraiment une belle équipe. Là, cette année, si on regarde la défense de la France, il y a... 8 défenseurs centraux qui ont été appelés. Et parmi ces 8-là, il y en a 7. Dans le fond, il y a 9 défenseurs qui ont été appelés plus tôt. Et parmi ces défenseurs-là, il y en a 7 qui jouent au poste de défenseur centre. Donc, sur les côtés, tu as Pavard et Hernandez. Donc, tu regardes ça et Didier Deschamps, il a sélectionné 25 joueurs. Donc, il aurait pu en prendre 26. Il a laissé quelqu'un chez lui, Jonathan Clause, Pierre Kaloulou. Bref, il a laissé des joueurs à la maison alors qu'il y a 7 défenseurs sur 9 qui sont défenseurs centraux. Il y en a, ils verront même pas le terrain. Ils vont être en chambre d'hôtel tout le long du tournoi. Donc,
un peu avec le même rôle qu'Adil Rami avait.
Ouais, exact. Adil Rami, il mettait l'ambiance, il mettait la musique. Mais c'est ça, c'est une défense qui. Elle est jeune, mais ça reste qu'elle ne va pas autant marquer la France que lorsqu'elle a fait en 2018.
Tu parlais du groupe des Pays-Bas. On peut un peu parler du groupe du Canada, ce qui est, selon moi, le groupe, je dirais pas un groupe de la mort, mais le groupe le plus relevé de la Coupe du Monde, là, avec la Belgique, la Croatie et le Maroc.
Ouais. Assurément le groupe de la mort, selon moi. Bon, la Belgique, c'est une équipe qui est redoutable. En 2018, ils ont fini deuxième. Ils ont fini troisième, plutôt. La Croatie, qui ont fini deuxième en 2018. C'est une équipe qui est vraiment... La Croatie, plutôt, c'est une équipe de Luka Modric, la Belgique, Lukaku, De Bruyne. C'est vraiment une superbe équipe. Je sais pas pour toi, mais les prédictions dans ce groupe vont être difficiles à faire, car le Maroc, le Canada, d'erreur, qui va prendre la troisième, la quatrième place? J'ai envie d'entendre des prédictions.
Moi, je vais y aller avec mon cœur. La Belgique en premier, le Canada en deuxième. D'ailleurs, la Belgique, je parlais de l'Italie, là, je prends pour l'Argentine, advenant que le Canada ne gagne pas la Coupe du Monde. Mais la Belgique aussi, c'est toujours une équipe que j'ai beaucoup aimée. C'est un peu leur génération dorée à eux, là, avec De Bruyne, Hazard et compagnie. Là, ils ont eu beaucoup d'attaques, un peu comme l'Argentine, mais une équipe plus équilibrée, selon moi. Eux autres aussi, c'est peut-être pas leur dernière chance, mais De Bruyne vieillit. Hazard, on va voir comment ça va pendant la Coupe du Monde, mais depuis qu'il est au Real Madrid, c'est plus le même joueur qu'il était à Chelsea.
Ah, exact. Depuis son transfert, là, il a vraiment fait mal.
Ouais, il y a pas de quoi à dire. J'ai hâte de voir Lukaku aussi qui vieillit. On parle de vieillir. Là, la Croatie, par contre, c'est encore pire. Là, le Modric est rendu à 37 ans, je crois. Rakitic, qui complétait le milieu de terrain à la finale de l'Euro. Et même pas dans la sélection.
Ouais, il a pris sa retraite. Et puis défensivement, t'as des joueurs comme Vidal, Lovren, qui était là en 2018. Maintenant, Mandzukic, même, qui a mis plein de buts à la Coupe du Monde 2018, qui n'est plus présent. C'est une équipe également qui vieillit. C'est ça, c'est quand même un groupe qui vieillit. La Belgique, défensivement, Vertonghen, Alderweireld, c'est des joueurs qui sont allés donner la Coupe du Monde, De Bruyne également. Donc, ça va être un groupe à surveiller.
Ouais, le Maroc aussi, une équipe un peu underdog, si on veut sous-estimer, mais... Je pense qu'ils peuvent surprendre, là, c'est ça. C'est quatre équipes qui peuvent faire des résultats. Évidemment, la Belgique, je pense qu'elle est au-dessus de ces équipes, mais rien n'empêche là, qu'ils échappent un match ou deux même. Là, ils pourraient, je pense que ce groupe-là, c'est le groupe qui a le plus de potentiel pour qu'il y ait des surprises.
Ouais, exact. C'est un des groupes de la mort. Je pense que si ce n'est pas le groupe de la mort, à la Coupe du Monde, tout peut arriver. L'Allemagne, ils se sont déjà fait éliminer à la dernière Coupe du Monde. Bref, tout peut se passer. Et puis le Canada peut battre la Belgique sur un malentendu. Bref, on va voir.
Qui tu penses qui sort de... Tu me l'as demandé à moi, mais qui, toi, tu penses qui sort de ce groupe-là?
Moi, je vois la Belgique, la Croatie, assurément. Première position, je dirais la Croatie. Deuxième, je dirais la Belgique. Parce que Lukaku, c'est pas sûr qu'il va jouer. Donc, peut-être qu'il va être... Ben, en ce moment, il est blessé. Ils l'ont appelé en équipe nationale, mais bref, on sait pas trop. S'il ne joue pas, De Bruyne, on sait que c'est un joueur qui fait des très belles passes, des très beaux centres. Vers qui il va se tourner pour envoyer ses centres? Lukaku, c'est quand même un joueur qui est très bon dans le domaine aérien. Et puis, face à la défense du Canada, ça aide, mais bon... S'il n'est pas là, je pense que la Croatie a une chance de finir premier, mais ça reste à voir. C'est vraiment un groupe qui est ouvert, comme on en a parlé.
Est-ce que tu penses que le Canada se classe comme meilleur troisième? Ou...
Je pense que le Canada pourrait finir troisième de ce groupe. Ça va dépendre du Maroc, en fait, des matchs contre le Maroc. Mais pour moi, le Canada, tout ce qui serait des points, ça nous prend des points à cette Coupe du Monde-là. On bâtit pour la Coupe du Monde 2026. Si on peut aller chercher des points, ça ne serait qu'un point face à la Belgique. Contre le Maroc, on doit remporter. Si on veut se qualifier, il faut remporter face au Maroc. Mais contre la Belgique, un match nul, je prends ça à tout moment de la journée.
Ah, c'est sûr. Là, comme tu disais, là, c'est encore une équipe jeune. Là, on espère, en plus, ça va être... au Canada, aux États-Unis puis au Mexique, la prochaine. Là, je sais pas s'ils sont automatiquement qualifiés. Je sais pas s'il y a eu des clarifications là-dessus, mais il y a des chances qu'ils soient automatiquement qualifiés. Ouais. Puis même à ça, je pense qu'ils ont l'équipe pour se
qualifier. Ouais, on va se qualifier. C'est sûr qu'on se qualifie. Selon moi, les bonnes années du Canada sont en ce moment, mais également dans les années à venir. Dans les quatre prochaines années, on va être autant dominant, même plus, là.
Oui, c'est sûr. Notre joueur vedette, Alfonso Davies, qui est encore très jeune. Là, je ne me rappelle plus de son âge exact. Mais en fait, je pense qu'il a 22 ans parce que je pense que je suis 5 jours plus vieux que lui. Fait que...
Ouais, c'est ça. Il est très jeune. Je pense 22-23. Donc, ça veut juste montrer à quel point. Et puis, l'engouement pour cette équipe, elle monte de plus en plus. Il y a un joueur, Tomori, qui joue à l'AC Milan. Il n'a pas été sélectionné par l'Angleterre. Il avait la double nationalité. Donc, il aurait pu jouer pour le Canada. Finalement, il n'ira pas à la Coupe du Monde. Donc, c'est des joueurs comme ça qui ont la double nationalité qui peut-être vont se dire dans 2-3 ans le Canada, c'est une équipe qui fait des belles chose qui a le potentiel. Donc, peut-être qu'ils vont décider de venir jouer pour notre équipe nationale. On ne sait jamais.
Exact. On va revenir au Canada. Tu parlais de l'Angleterre. J'étais un peu curieux de savoir ce que tu penses de la sélection de l'Angleterre et de l'Espagne. Je pense deux équipes jeunes. L'Angleterre, ça fait longtemps là, qu'ils essaient d'avoir un titre. Ils partent toujours avec des grands espoirs. Finalement, ça s'estompe au cours du tournoi. Qu'est-ce que tu penses de ces deux équipes-là?
Bien, pour commencer avec l'Angleterre, je te dirais que c'est une sélection où l'entraîneur-chef il est à questionner. Gareth Southgate, qui est également sélectionneur, en fait, les entraîneurs sont les sélectionneurs. Bref, il a fait des choix quand même, selon moi, inacceptables. Et de même pour l'entraîneur de l'Espagne. Donc, il fait des choix... comme t'amènes Harry Maguire, qui n'a pas joué pratiquement cette année à Manchester United. Donc, il n'est pas dans le 11 partant. C'est comme le troisième défenseur centre en termes de... Dans le ranking, si on peut dire ça comme ça, dans le classement. Et puis, il s'en vient jouer. Il va faire la Coupe du Monde. Et puis, Gareth Southgate qui a dit qu'il avait son appui. Et puis, c'est des joueurs comme ça qui sont appelés en équipe d'Angleterre, mais qui, selon moi, en club, ont de la difficulté. Mais on les appelle quand même car on est dans un principe de fidélité. Alors qu'il y a des jeunes qui poussent et qui font des très bons résultats en club, mais ils n'auront jamais leur chance de jouer en équipe d'Angleterre. Donc ça, c'est quelque chose d'assez questionnable. Et puis, c'est pour ça, si on regarde un peu l'Angleterre, il y a peut-être des mauvais résultats justement à cause de ça. Si tu amènes des joueurs qui sont dans une mauvaise forme en club, ils ne jouent pas vraiment, tu les fais jouer ensemble, c'est peut-être là que c'est compliqué. Et puis pour l'Espagne, moi, c'est vraiment un problème. Je comprends pas comment on n'a pas pu prendre De Gea, premièrement au filet. Kepa, qui est un autre gardien au milieu de terrain. Thiago, on ne l'amène pas, qui joue à Liverpool. Et puis derrière Sergio Ramos, que tout le monde connaît.
Leur capitaine.
Ouais, que ça ne stresse. Juste, tu peux l'amener pour le leadership, donc dans le vestiaire.
On parlait d'Adil Rami tantôt. C'est pas le même genre de leadership, mais c'est un peu le même rôle.
Ouais, c'est ça. Ramos, même s'il ne joue pas beaucoup, ça reste que c'est un. Tu vois, Sergio Ramos, il a joué 4 Coupes du Monde, il en a gagné une. C'est un joueur qui, sur le terrain, tu le vois. T'as envie d'aller te battre.
Ah, c'est un guerrier. Ouais, t'as exact. Envie d'aller à la guerre avec.
Ouais, ouais. Même s'il joue pas sur le terrain, tu l'as dans le vestiaire, il va amener une bonne ambiance. Il va, juste par son leadership, il va faire parler et tout le groupe va s'élever vers le haut. Donc, ça, c'est des choix qui sont questionnables. Mais après, le sélectionneur doit mieux savoir. Peut-être qu'il y a des blessés là-dedans. On sait que c'est la Coupe du Monde des blessés. Mais bon, c'est des choix qui sont quand même très questionnables, selon moi.
Ouais, c'est ça. Tu parles de blessés. Là. C'est exceptionnel. Ils mettent ça en décembre, là, au milieu de la saison. Normalement, c'est à l'été. Alfonso Davies a une petite frousse. Je pense qu'il va. Le Bayern a dit qu'il allait pouvoir participer à la Coupe du Monde. Il y a Sadio Mané, désolé, qui s'est blessé dernièrement. C'est un point d'interrogation pour la Coupe du Monde. C'est, en plus, c'est au Qatar, là, on sait, avec toutes les conditions sociales. C'est un peu une Coupe du Monde particulière. Pour revenir, tu parlais d'Harry Maguire qui était sélectionné. C'était un peu une intrigue pour moi parce que. Il n'a pas des super bonnes performances. Il est toujours appelé en équipe d'Angleterre. Il a été acheté pour 80 millions d'euros. Je sais pas qu'est-ce que les gens ou les gens dans le monde du soccer voient en lui. Mais à part qu'il soit extrêmement grand, c'est pas un joueur qui m'impressionne beaucoup. Là.
Ah, je te dirais, c'est pareil pour moi. Je le regarde jouer pour les rares matchs qu'il joue. Avec Manchester United, je le regarde jouer parfois. Et puis, vraiment, sur les réseaux sociaux, tout le monde n'aime pas Maguire. Je sais pas pourquoi il joue toujours. Mais bon, il y a un nouvel entraîneur à Manchester United. Et puis Maguire, il a pris de côté, il ne joue plus. Il était capitaine avant. Donc, il était capitaine de l'équipe. Là, il ne joue plus. Et puis, il joue en équipe d'Angleterre. Et l'Angleterre, ils ont des très grandes ambitions. Ils ont perdu l'Euro 2021 face à l'Italie. Et puis, Maguire, il était dans cette équipe à ce moment-là. Il jouait bien, mais là, cette année, on dirait que, bon, peut-être qu'il se réveille juste en équipe nationale. Peut-être en équipe nationale, il joue très bien au niveau du club, il a de la difficulté, mais pour un joueur qui vaut 80 millions, là, vraiment...
On se serait attendu à plus.
Ouais, là. C'est ça. Je m'attendais à ce que ce soit un joueur très dominant. Là, il a de la difficulté à faire l'11 partant. Là.
C'est un peu comme Paul Pogba aussi, qui jouait à Manchester United, qui avait des meilleures performances en équipe de France, mais on reste que ses performances en club étaient quand même beaucoup meilleures là, que ce que Maguire ouais. nous offre.
Il y a des joueurs comme ça, ils réussissent à se transformer pour l'instant dans une Coupe du Monde et puis après, ils reviennent les bons joueurs normaux qu'on connaisse.
C'est sûr qu'ils sont dans le même groupe que le Canada, mais c'est un peu l'espoir que j'ai pour Eden Hazard. J'espère qu'il va nous sortir là, du Hazard qu'on connaît, là, candidat pour le Ballon d'Or. Évidemment, j'aimerais ça que le Canada puisse aller chercher des points contre la Belgique, mais j'espère qu'il va nous offrir. C'est un de mes joueurs préférés à regarder jouer. J'espère qu'il va nous offrir une grande Coupe du Monde, même s'il n'est pas en pleine forme en ce moment.
Ouais, très excitant à voir jouer. C'est vraiment un joueur qui, avant d'aller au Real Madrid, c'était un des meilleurs sur la planète. Là. Sérieux, ses dribbles, sa frappe, sa conduite de balle, c'était vraiment un joueur exceptionnel à regarder.
On va revenir au Canada. Il y a plusieurs joueurs du CF Montréal qui vont probablement être sélectionnés. Là. Vite comme ça, je pense à Piet, à Miller, à Johnston, à Coney. Waterman, probablement. Là, j'ai vu que le joueur qui était devant lui dans la hiérarchie s'est blessé hier ou aujourd'hui. Donc, Waterman jouait sur le 11 partant dans le match. C'est-tu contre le 14 ou au 14?
Ouais, c'était contre le Bahreïn en prévision du 14. C'était aujourd'hui.
Ouais, exact. C'est ça. Fait qu'il était dans le 11 partant. Il va peut-être être sélectionné. Là, on va voir la gravité de la blessure de l'autre joueur. Pantémis aussi qui va peut-être être sélectionné, ouais. Vu la blessure à Maxime Crépeau. Est-ce qu'il y en a d'autres joueurs là, que j'ai oubliés?
Ben non, ça fait le tour pour le CF Montréal, mais ça, c'est très encourageant. Ça démontre que bon, on a une belle équipe en MLS à Montréal. Olivier Renard doit être content. Ben, c'est tous des joueurs qui peuvent vendre à profit et qui vont faire la Coupe du Monde. Et puis, on a vu la blessure de Crépeau. C'est malheureux, un Québécois qui ne pourra pas aller à la Coupe du Monde. Bon, il va être remplacé par un autre, Pantémis, qui va en fait probablement obtenir sa participation à la Coupe du Monde. Ça reste à voir. Il y a d'autres gardiens qui pourraient le faire également, mais sinon Piet, Coney, Johnston, c'est tous des joueurs qui assurément vont y aller, qui vont avoir un rôle à jouer. Je pense que Johnston, selon moi, tu me diras après Charles, selon moi Johnston, Miller et puis Coney, ils peuvent obtenir des minutes dans le 11 partant, ou si ce n'est pas dans le 11 partant, Coney va rentrer en cours de match, il va faire une différence.
Ouais, justement, Coney aujourd'hui il jouait dans le 11 partant, il a marqué son premier but aussi, je pense. Moi aussi, là, je sais pas s'il va être dans le 11 partant, mais je suis sûr qu'il va avoir des minutes. Johnston et Miller, je pense qu'on va les voir souvent là, dans la formation. Est-ce que tu penses que ces trois joueurs-là vont rester avec Montréal longtemps ou...
Selon moi, ça dépend de tout le monde. Coney, il y a déjà eu des offres en Angleterre. Donc Coney, j'aimerais ça qu'il reste pour l'été prochain à Montréal. Selon moi, il va partir cet hiver. Selon moi, il fait une belle Coupe du Monde, après il part. Même s'il n'en fait pas une belle, aussi. Il est jeune, donc il pourrait partir. Il y a déjà eu deux offres et ça a été détourné les deux fois pour des raisons assez... Bon, c'est compliqué. Le CF Montréal qui avait accepté, le joueur aussi, finalement, la date limite des transferts a été finie. Mais bon, c'est dans ces deux cas-là... Il était parti, là. Dans la tête du CF Montréal, il était parti. Et puis, Johnston, Miller, c'est deux joueurs qui, honnêtement, ils doivent partir de la MLS pour leur développement à eux. Je pense qu'ils rêvent d'Europe. Et puis, ils ont la capacité de jouer en Europe. Que ce soit la Ligue 1 ou peu importe, ils peuvent jouer en Europe. Peut-être pas direct la Ligue des Champions, mais ils peuvent jouer en Europe, assurément. Et puis, c'est sûr que c'est des joueurs qui, avec une belle Coupe du Monde, ils pourront assurément partir en Europe.
Ouais, c'est ça. Ça dépend toujours un peu de leur performance. Là. Je pense que Coney, moi aussi, là, j'espère qu'il reste une saison de plus. Mais je pense qu'il est parti là, après la Coupe du Monde. Tantôt, avant l'émission, on parlait de Balou Tabla, comment il est peut-être parti trop tôt vers l'Europe ou vers un trop grand club. Je pense que Coney est meilleur dans la MLS que quand Balou Tabla est parti. Mais je pense que pour son développement, ce serait pas nécessairement une mauvaise chose qu'il voit une autre saison à MLS. Là.
Ouais, exact. Ça serait bien qu'il voit une autre saison à MLS, mais s'il peut partir, je veux juste pas qu'il parte vers un club des top 5 des championnats. S'il va vers une équipe où il y a trop de compétition, il va voir le banc, c'est là qu'il va avoir un petit peu de difficulté. Mais s'il peut partir pour une équipe un peu moins bonne qui est quand même en Europe, là, ça serait parfait pour lui, il va pouvoir se développer.
Ouais, exact. Un peu comme Mihailovic, là, qui est allé jouer aux Pays-Bas. Il va pouvoir continuer à se développer. On va voir vers où sa carrière va, mais il va peut-être aussi changer de club, aller vers une meilleure ligue ou un meilleur club.
Ouais, exact.
Pour revenir au Canada, on a parlé d'Alfonso Davies, qui est un des meilleurs joueurs au monde, un des meilleurs latérales gauche de la planète. Là, avec le Canada, il joue plus élevé sur le terrain, le plus en attaque. Mais à droite aussi, moi, j'aime beaucoup Buchanan, qui est un jeune joueur, un peu comme toute l'équipe du Canada. Dans le fond, là, on parlait que c'est pas nécessairement cette année ou jamais. Ils ont une équipe jeune, talentueuse. Jonathan David aussi, qui joue en Ligue 1, qui, là, j'ai pas regardé dernièrement, mais au début de la saison, était meilleur buteur de la Ligue. Est-ce que tu as des joueurs là, qui sont à surveiller pour cette Coupe du Monde-là?
Ouais, ben définitivement, Buchanan, David, c'est vraiment des joueurs à surveiller. Buchanan, il joue en Ligue des Champions. David, non, mais bon, à un moment, il était meilleur marqueur de la Ligue 1, comme tu as dit, devant Messi, Neymar, donc c'est Mbappé également, donc ça veut quand même dire qu'il a du talent. Et puis, il y a Stéphane Eustachio, vraiment un joueur à surveiller. Il passe un peu sous le radar, mais il joue au Portugal, en première division portugaise. Et puis, il est milieu de terrain. Il a gagné le prix du joueur du mois en décembre. Donc, c'est vraiment un joueur à surveiller qui, au milieu de terrain, on va savoir, on va jouer contre De Bruyne, Modric. Donc, c'est vraiment la bataille du milieu de terrain, ça va être important pour le Canada. Et puis, si on a un joueur comme ça, qui peut vraiment monter l'équipe vers le haut, ça serait parfait.
Aussi, Kyle Lahren, qui a marqué des gros buts, là. Moi, je me rappelle aussi du match, là, où est-ce qu'il avait joué à Edmonton dans la neige. Gros but. C'était contre qui déjà? Je me rappelle plus, mais en tout cas...
Le Mexique.
Ouais, exact, c'est ça. Les gens appelaient ça le Ice Bowl.
Ouais.
Aussi, le Ice Bowl, il y avait un jeu de mots avec Azteca, là, le stade du Mexique.
Ouais, Azteca, ouais, exact.
Qui est le Mexique qui joue en altitude pour gagner un peu un avantage sur ses adversaires. Ben là, au Canada, on s'est dit, attends une minute, là, nous autres aussi, on peut profiter de notre environnement.
La célébration de la Découbé qui saute dans la neige, c'est...
Assez marquant.
Ouais, exact.
Ouais, ben c'est tout pour la Coupe du Monde. Je vais juste conclure. Je sais pas si tu as vu, les filles du Rouge et Or sont en demi-finale du championnat canadien. Ils ont éliminé la semaine dernière. Il y a cette semaine, les favorites, les Thunderbirds de UBC, qui étaient classées première, qui n'avaient pas perdu. Le match s'est fini 2-1 en penalty. Je sais pas si t'as vu un peu le...
Ouais, j'ai regardé le match. C'était un beau match. Final penalty, c'était super cool. On aime ça voir des penalties en tant que spectateur, mais les joueurs, on s'imagine pas à quel point ça doit être stressant. Donc là, ils vont jouer à demi-finale ce soir, 6h30, si je ne me trompe pas.
Exact.
Et ils vont affronter l'Université du Cap-Breton, je crois. Donc ça va être à regarder. On espère qu'ils vont apporter Roger et puis ils pourront peut-être aller rejoindre les Carabins en finale pour une bonne rivalité.
Ouais, c'est ça, Carabins qui sont classés deuxième au pays. Tu parlais du stress là, des joueuses hein, sur le terrain. Je voyais le but gagnant. La joueuse envoie ça lucarne à gauche, pleine force. La plupart des pénalties, c'était des petits tirs à terre, pas trop proche des poteaux. Elle s'est pas trop stressée là, dans la lucarne.
Pour jouer au soccer, pour avoir joué également, quand t'envoies des pénalties, la plupart du temps, tu y vas en finesse, mais quand tu y vas en force, ça marque, t'es content, mais sinon t'as très peur.
Est-ce que t'avais une stratégie, toi, en pénalty?
Moi, j'essaie de regarder le gardien le plus souvent possible dans les yeux pour lui montrer que je suis là, pour pas faire comme si j'avais peur, même si au fond de moi, j'avais peur. Puis après, bon, j'allais à un côté, mais bon, généralement, ça marchait, mais ça reste à voir.
OK, moi, j'avais une stratégie semblable, mais différente un peu. Je regardais le gardien, mais je le regardais pas dans les yeux, je regardais ses pieds pour pas donner d'indice où j'allais tirer. Puis mon père me disait tout le temps, j'ai jamais vu quelqu'un passer en dessous du filet. Fait que mes pénalties restaient à terre 100% du temps. Sinon, en ce moment, c'est les championnats canadiens, mais juste avant, il y a eu les honneurs, le Canadien. Léa Jeanne Fortier qui a gagné recrue de l'année au Canada. Et l'entraîneur-chef là, de Laval, David Desloges, a aussi été nommé entraîneur-chef, meilleur entraîneur-chef au Canada. Donc, sur ça, on va aller à la pause. Au retour, Victor Marchand va être avec nous pour parler de la Coupe d'Onsmore. À bientôt.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est la main! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Cheese 94.3.
Tu dévores les journaux, tu te régales de politique, tu salives lorsqu'on te parle d'actualité. Les Affamés, c'est l'émission pour toi. L'actualité décortiquée de façon simple, intéressante et surtout appétissante. On s'attaque aux dossiers les plus complexes dans l'actualité pour t'aider à y voir plus clair. Tout ça dans la bonne humeur. Les Affamés, c'est ta source d'information et divertissement par excellence de midi à 13h sur les ondes de Chiz 94.3.
Écoutez maintenant LSDJ 7 présenté par Lex. explorons ensemble la musique électronique dans un DJ set d'une heure en continu. Retrouvons-nous tous les derniers dimanches du mois sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
The following program is a disturbing.
Crash Crowd.
Mardi 20h.
Chiz 94.3.
Découte!
Jexcel.com recrute des centaines de tutrices et tuteurs pour soutenir tous les élèves dans leur parcours académique. Depuis 2014, Jexcel.com est un service de tutorat et accompagne des milliers de jeunes du primaire et du secondaire. L'aide aux devoirs, Jexcel.com, c'est un emploi très stimulant, valorisant et gratifiant, avec un horaire flexible et stable et un salaire compétitif. Que ce soit en personne ou en ligne, joins-toi à l'équipe de tuteurs et tutrices de Jexcel.com. Postule dès maintenant au jexcelle.com.
Allô, chérie, je m'en viens. À tantôt.
Pour écouter de nouveau le message, appuyez sur le 1.
Allô, chérie, je m'en viens. À tantôt.
Pour écouter de nouveau le...
Allô, chérie, je m'en viens. À tantôt.
Pour écouter...
Allô, chérie, je m'en viens.
Quand on perd quelqu'un, la première chose qu'on oublie, c'est sa voix. Avec votre aide, nous pouvons empêcher que d'autres vies soient réduites au silence. Au volant, pas d'alcool, pas de drogue, pas de victimes. Pour en savoir plus, consultez mad.ca.
100% sport, 100% passion. Chaque mardi, Boisvert Radio vous éclairera sur les actualités sportives à la une des journaux, du niveau local jusqu'à l'international. De plus, l'émission accueillera des invités de marque qui viendront partager leurs histoires et leurs anecdotes. Donc rendez-vous tous les mardis de 21h à 22h sur les ondes de Chiz 94.3.
Dis-le pas, là, on va dire c'est un affaire familial au pire si tu veux en parler.
Re-bienvenue sur les ondes de Chiz 94.3. Vous écoutez Conduite Antisportive. On est avec Victor Marchand qui va nous parler de la Coupe Dundumore.
Yes.
Le Rouge et Or affronte les Carabins demain.
Comme d'habitude.
Ouais, comme d'habitude. La 19e Coupe Dundumore de suite pour le Rouge et Or.
Ouais, la 9e consécutive contre Montréal.
OK, c'est ça. Fait que on s'entend que j'étais jamais trop à l'aise de parler de... Tu sais, quand, mettons, on parlait du match de contre Concordia,
ouais.
Là, de parler de la finale Québec-Montréal, mais...
On se garde une gêne. Surtout que, tu sais, Montréal a quand même eu un peu de misère contre Sherbrooke. Ça a été un match, pour l'avoir écouté un peu, c'était pas un match qui était très difficile pour Montréal. Donc, ils ont quand même contrôlé le match une bonne partie du temps. C'était plus... en fin de match, Montréal l'a un peu échappé. Et ça a donné lieu à une petite remontée de Sherbrooke. On n'est pas venu loin d'avoir peut-être un match serré. Mais tu sais, le score vaut pas vraiment grand-chose dans ce genre de match-là, autant pour Laval que pour Montréal. Beaucoup de problèmes de pénalités pour Montréal dans ce match-là. On a dominé du côté des Verges, mais avec le nombre de pénalités qu'on avait, 200 verges de pénalités au final, c'est 200 verges négatives, là, donc c'est sûr que ça aide pas. Mais voilà, le Montréal qui va la chercher. Même chose pour Laval. C'était pas un match non plus qui était très, très propre des deux avec Laval.
Ouais, je pense pas qu'il y a eu une grande frousse, mais...
Ouais, ben je pense pas que c'était compliqué du côté talent, dans le sens que c'était un match qu'on s'attendait que Laval gagne, et c'est exactement ce qui est arrivé. Mais c'était un peu moins propre côté pénalité, un peu côté parole épicée ou trash talk, si vous aimez mieux. Mais c'était pas un match... très, 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 très propre. Tu sais, on a vu Kevin Mittal s'en prendre un peu avec les entraîneurs, avec les autres joueurs. On a eu plusieurs conduites antisportives qui ont été données. C'est pas nécessairement le genre de match qu'on veut voir à Laval. De ce qu'on comprend, il y a beaucoup d'animosité entre Concordia et Laval. Donc, il y avait peut-être des comptes à rendre dans ce match-là. Puis quand le score a été un peu moins accessible pour Concordia, on a vu peut-être Concordia un peu plus, un peu moins... content du résultat, puis être un peu frustré par ce qui arrivait.
Donc, mais j'avais regardé... Ben en fait, j'ai pas regardé au complet le podcast de Kevin Raphaël,
ouais.
Mais j'ai vu passer là, que sur son podcast, Kevin Mittal avait ouais. un peu collé appelé le carrière de Concordia un no-name, là, ouais. Puis tu sais, que j'avais jamais entendu parler de lui avant.
Disons que ça s'est fait du fun.
Ouais.
Pour l'avoir écouté, tu sais, Kevin Mittal, c'est un joueur étincelant, autant à l'extérieur du terrain que sur le terrain, dans les matchs. Il fait ce qu'il veut. Puis je veux dire, tout le monde s'en fout. Là. Je veux dire, à Laval, c'est rare qu'on a des joueurs de même qui réussissent à faire leur place parce que Glenn Cosentin aime ça quand les choses sont bien faites, sont bien ordonnées. Et avec Kevin Mittal, on le laisse
à peu près faire ce qu'il veut. Donc, quand il arrive dans un podcast comme ça avec Yann Raphaël, qui connaît un peu, qui a déjà vu, qui a déjà rencontré à Montréal, c'est le genre de choses qui arrivent, que tu dis justement que Olivier Roy, c'est un no-name, que Éloi Lardin-Saint-Gimbal n'a pas le même talent que d'autres, que c'est un match, whatever. Il a dit plein de choses d'un peu loufoque, puis un peu inédite par rapport au Ougeard. C'est pas le genre de truc qu'on entend des joueurs du Ougeard, mais...
Ça pourrait peut-être être une des sources d'animosité entre les deux équipes.
Je pense qu'il y a peut-être un petit passif là, avec le dernier match aussi qui avait été à Laval de 74, où Concordia l'avait peut-être pas pris. Puis là, c'est deux matchs en ligne aussi contre Concordia, donc là... T'sais, du moment que tu joues un match, la semaine d'après, tu rejoues, peut-être des comptes à rendre par rapport à ce match-là. Ce match-là est frais dans nos mémoires. Donc, des fois, c'est un peu plus difficile, justement, de garder le focus puis de passer à autre chose parce que, justement, tu affrontes la même équipe rapidement. Mais c'est ça. Clairement que ça met la table, en tout cas, pour Montréal parce qu'on sait que chaque match contre Montréal est émotif. Chaque match a son lot de frustration pour les deux équipes. Ça va être vraiment intéressant de voir quelle équipe va rester disciplinée parce que Yadier Luka n'est pas allé de remarques, de remarques contre son équipe. Il est plus allé contre les arbitres en disant justement que son équipe avait joué contre deux équipes, les arbitres et Sherbrooke. Je pense pas que c'est intéressant de dire ça. Je pense pas que c'est gratifiant de dire ça. Après ça, c'est ce qu'il décide de dire, puis c'est la culture qui l'imprègne à Montréal, et ça a l'air de marcher parce qu'ils ont deux coupes dans le sport de suite contre Laval de gagner. Donc on peut pas dire que la culture marche pas, mais je pense pas que c'est la même culture qu'à Laval. On va voir s'ils peuvent rester disciplinés, parce que si on n'est pas discipliné contre Laval, ça va être vraiment difficile d'aller chercher une victoire.
C'est sûr que quand t'as deux longueurs de terrain de pénalité dans un match, ça pardonne pas contre la puissance du Montréal.
Ça pardonne contre Sherbrooke, ça pardonnera jamais contre Laval. Et du moment que tu prends des pénalités comme ça qui sont coûteuses, j'ai bien beau croire que peut-être que les arbitres ont peut-être pas fait la job idéale dans ce match-là, mais là, après ça, 200 verges de pénalité, je peux pas croire que t'en méritais juste 10.
Ouais, c'est ça.
T'en méritais une couple au moins, là, donc... C'est vraiment... C'est une autre mentalité. Là, on verrait jamais Glenn Constantin dire ça. C'est pour ça que je dis que c'est deux cultures différentes. Mais encore là, on peut pas blâmer Yadier Luka parce que la culture marche. La culture qu'il est en train de créer a du succès. Donc, ça a toujours été ça à Montréal avec Yadier Luka qui est arrivé. Ça n'a pas été un grand changement par rapport à Mathieu Chia, mais... On verra quelle culture, quel état d'esprit qui va gagner.
Ouais, c'est ça, tu parles de culture, qu'on n'aurait jamais entendu Glenn Constantin dire ça. Le match est demain à 14h. Il y avait une conférence de presse aujourd'hui. Tu arrives directement de là.
Exact.
Est-ce que tu as des commentaires ou, dans le fond, qu'est-ce que tu retiens de...
Première surprise, Kevin Mittal, joueur par excellence. Pas qu'on s'en attendait pas. On savait que c'était une lutte entre lui et Desjardins. Mais voilà, c'est...
Je vois Paxi Mélance au Québec, là, pas juste au Rouge et Or.
Non, exact, au Québec. Donc, le méritait autant que Desjardins. Et même lui, il l'a dit durant la conférence de presse, a dit qu'il se sentait un peu malaisé, si on reprend ses mots, de recevoir ce prix-là à son nom. A l'impression que Arnaud Desjardins le méritait peut-être autant que lui, même que d'autres joueurs sur l'offensive le méritaient. A parlé de sa ligne à l'attaque, qui a justement un des joueurs qui a été élu comme joueur de ligne offensif et défensif de l'année. Donc, le prix est donné à un joueur autant de la ligne offensive que de la ligne défensive. Donc, c'est vraiment une combinaison des deux. On l'a donné à Nathaniel Dumoulin-Duguay, un joueur qui a eu une saison étincelante cette année. Il n'avait pas joué l'année passée à cause d'une blessure. Il a eu vraiment une année, une breakout year, comme on appelle dans le jargon. C'est une ligne à l'attaque qui a accordé seulement 9 sacs. Le reste du groupe de receveurs qui fait un travail exceptionnel. Édouard Arsenault, le joueur aux mains d'or, là, comme on aime l'appeler là, de ces temps-ci, avec les catchs qu'il fait. David Dallaire, centre arrière étoile. Peut-être le meilleur centre arrière est passé à Laval. Arnaud Desjardins, on en a parlé, carrière étincelant. Même le reste de la défensive, si t'as pas la défensive que t'as à Laval, le succès ne serait jamais arrivé pour Mittal et pour le Ougeard. Donc, a voulu remercier ses coéquipiers, voulu dire que ce prix-là, il n'est pas à lui, il est à l'équipe. Et clairement, on le sait, là, Kevin Mittal serait prêt à échanger ce prix-là contre n'importe quel bac de Coupe d'Anse-Point, n'importe quel bac de Coupe Vanier. Donc pour lui, il était calme, était posé devant les questions des journalistes, mais avait pas l'intention de faire le fou là, à 24 heures du match, se prépare pour ce match-là. On le sent dans son élément, on sent que c'est le match qu'il va aller chercher, on sent que c'est maintenant que ça joue. Il reste pas beaucoup de temps à Kevin Mittal. C'est sa avant-dernière Coupe d'Anse-Moore. Il va lui en rester une autre l'année prochaine. Donc, il n'a pas le temps de niaiser. Là, s'il veut aller en chercher une, il le dit depuis le début de sa carrière universitaire qu'il veut devenir détenteur d'une bague de la Coupe Dunsmore. On verra s'il peut aller chercher ce genre de bague-là.
Ouais, c'est quand même assez rare pour un joueur de sa trempe, là, passer au Rouge et Or puis pas avoir une Coupe Dunsmore.
Ben, je pense que c'est ça va venir avec la Coupe Dunsmore, dans le sens que le statut de joueur légendaire du Rouge et Or passe avec une Coupe Dunsmore. Tout le monde le sait. Desjardins en parlait aussi. Comme à peu près tous les joueurs du Rouge et Or savent c'est quoi les attentes quand tu arrives au Rouge et Or, c'est de gagner une Coupe Dunsmore, c'est de gagner une Coupe Vanier. Faut pas que tu aies des disettes à en plus finir sans gagner de Dunsmore et Coupe Vanier. Et là, le Rouge et Or a pas gagné de Coupe Dunsmore depuis 2018. Depuis c'est Hugo
sûr
Richard,
on c'est a sûr qu'il y a eu la COVID. Là, Il y a eu une saison ou deux d'annulée.
4 ans. Je comprends que c'est pas un 4 ans normal, mais quand même, ça fait longtemps. C'est rare qu'on voit le Rouge et Or avoir autant peu de succès à la Coupe Dunsmore. C'est le temps d'aller en chercher une. On veut ramener ça pour nos partisans. On veut donner ce prix-là à nos partisans. On veut la redonner aux gens qui nous suivent depuis longtemps. Tu sais, là, je veux dire, si on était pour la perdre, ça ferait 5 ans, 4 ans l'année prochaine qu'on n'aurait pas gagné la Coupe Dunsmore. Ça commence à faire long. On a réussi à défaire la disette de 5 défaites de suite contre Montréal cette année. Est-ce qu'on peut défaire cette disette-là de Coupe Dunsmore? On va voir. Est-ce que Arnaud Desjardins va pouvoir marcher dans les traces d'Hugo Richard, aller chercher une Coupe Vanier, une Coupe Dunsmore comme il l'avait faite? Ce sera à voir samedi.
Ben c'est ça exactement. Là, tu regardes les grands noms là, du Rouge et Or, ou peut-être ceux plus récents, là, ouais. Hugo Richard...
C'est tous des joueurs qui ont gagné, Benoît Groulx,
Mathieu Bertrand, c'est tous des joueurs qui ont au moins une Coupe Vanier ou deux, plusieurs Coupes Dunsmore.
C'est pour ça que
quand t'es aussi bon puis que tu passes au genre 5 ans, normalement tu finis avec des titres. Kevin Mittal qui est un des meilleurs joueurs, qui a encore rien gagné, c'est assez rare. C'est jamais vu presque là, avec le Rouge et Or. Donc, on lui souhaite.
Puis je pense que justement, si tu veux mettre ton nom, surtout pour Desjardins, je pense que Mittal, avec les records qu'il a, n'aura pas nécessairement besoin de Coupe Vanier ou de Coupe Dunsmore pour avoir sa place parmi les légendes du club. Mais un gars comme Desjardins, s'il veut être dans la même conversation que des gars comme Groulx, comme Bertrand, comme Hugo Richard, va devoir aller chercher des Coupes Dunsmore, des Coupes Vanier. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire sous pression. C'est pas le genre de joueur qui a montré beaucoup de faiblesse sous pression. On a l'air d'être très calme. Le sang-froid, là, vraiment, la définition de sang-froid, c'est lui, là, a pas peur de la ligne défensive de Montréal. On n'a jamais vraiment de... On ressent jamais la peur dans son visage et on va voir ce que ça peut donner demain devant ses partisans en plus. Là, on n'annonce pas une superbe journée, mais quand même 12 000 billets qui étaient vendus aujourd'hui. On s'attend probablement à ça, là, entre 12 000 et 15 000 probablement demain, dépendamment de comment les billets seront vendus à soir et demain matin. Mais voilà, c'est un gros match. C'est le plus gros match de la carte de Jardin, clairement. On sait que c'est notre année. On sait que c'est une belle année par rapport à l'année passée. Pas nécessairement que c'est l'année qu'on doit gagner, mais c'est l'année, c'est une meilleure année que l'année passée. On arrive plus près, on arrive avec une meilleure équipe, une équipe plus soudée, qui a mieux progressé durant l'année. Donc, vraiment hâte de voir ce que ça va donner.
C'est un autre duel encore et toujours là, la rivalité entre Arnaud Desjardins et Jonathan Sénécal. Jonathan Sénécal, non plus, c'est pas quelqu'un qui flanche là, dans les grands moments. C'est lui qui a eu c'est lui qui a eu le plus de succès, dans le fond, là, entre les deux carrières dernièrement dans les affrontements.
Ben, statistiquement, cette année, il a été un peu moins bon.
Mais je parle plus, tu sais, depuis 2018. Là, que...
Ben, c'est ça. Il arrivait comme justement le joueur générationnel de son époque. Là, c'est un peu Mittal qui l'a pris. Puis, tu sais, on regarde juste cette année, je pense que si on avait à dire, est-ce que c'est Arnaud Desjardins ou Jonathan Sénécal, le joueur générationnel, cette année, aujourd'hui, moi, je dirais que c'est Arnaud Desjardins. Il y a encore du temps pour les deux à se développer. On va probablement
Les deux, il leur reste combien d'années dans le parcours universitaire?
Il leur reste 3 ans chacun après cette année. Donc, on a joué 2 ans des deux côtés. Donc, les deux leur restent un petit bout.
Si je me trompe pas, Sénécal avait commit un an avant, mais il était allé aux États-Unis.
Mais à cause de la saison qui était annulée.
Exact, il est revenu. C'est donc, ça, les deux carrières font leur carrière en même temps.
Exact, c'est ça. Donc, ils ont juste 2 ans de jouer. Donc, dépendamment de s'ils sont repêchés... C'est rare que des carrières canadiens réussissent à se faire repêcher aussi vite.
Même Hugo Richard là, qui avait été repêché.
Peut-être repêché, mais vont peut-être rester une 5e année. Peu importe, on verra ce que ça donne. Mais c'est ça va être de voir justement comment vont progresser. Moi, je pense pas qu'on n'aura pas deux joueurs, on va avoir deux joueurs qui vont progresser d'une façon différente. Au final, peut-être que cette année, ce sera l'année de Desjardins, mais l'année prochaine, ce sera l'année de Sénécal. Ça va dépendre de plein de facteurs. Il y a aussi l'équipe que tu as autour de toi qui va faire une différence. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner l'année prochaine et dans les prochaines années. Là, ça pourrait être vraiment intéressant pour ça.
Tu parlais de l'équipe là, qui influence les performances. Le jeu au sol qui avait été très bon l'année passée pour les Carabins, cette année un peu plus difficile.
Ben, ouais,
est-ce que tu penses que ça peut être un facteur pour la finale?
Je l'avais dans les clés du match. Là. Selon moi, il y a 5 clés importantes pour ce match-là, et ça, c'est probablement la plus importante. C'est de savoir qui va être capable d'installer son attaque au sol le mieux. Surtout dans une température comme on va avoir demain, beaucoup de vent, de la pluie. Marco Iadeluca disait aujourd'hui qu'on est capable de passer le ballon même s'il pleut, même s'il vente, mais c'est beaucoup plus difficile de faire des longues passes. T'sais, c'est pas des carrières comme Mahomes qui sont capables de mettre des balles à 70 verges dans les airs. Ça va être un peu plus compliqué, un peu plus risqué aussi d'aller chercher des gros jeux par la voie des airs. On va pouvoir peut-être utiliser Mittal d'une façon différente comme on utilise Deebo Samuel dans la NFL. L'utiliser un peu dans des jeux renversés, lui donner le ballon dans le champ arrière pour qu'il puisse faire des jeux de cette façon-là et non peut-être moins de jeu justement par la voie des heures, on verra ce qui arrive. Mais clairement que le jeu au sol va être important. Montréal a réussi à trouver un rythme du côté du jeu au sol dans les deux derniers matchs. Bertrand Beaulieu qui a trouvé justement un peu ses aires d'aller. Et ça, c'est selon moi dû au remaniement un peu de la ligne à l'attaque de Montréal. On est allé chercher, on a installé Adam Lachance au centre de cette ligne à l'attaque-là, un gars de 430 livres. C'est un colosse sur la ligne à l'attaque, capable de faire absolument n'importe quoi au poste de centre. C'est un jeune joueur, c'est un joueur de première année. Est-ce qu'il va pouvoir être du niveau d'un gars comme Jean-William Rouleau, d'un gars comme William Desgagné qui sont ahurissants à leur poste? Ça va être intéressant de voir si on va être capable de courir au centre, parce qu'on le sait, Bertrand Beaulieu, c'est un joueur qui court de nord-sud, qui court vraiment en plein centre de sa ligne à l'attaque. Si on n'est pas capable d'installer le jeu au sol du côté de Montréal comme on l'a fait, comme on n'a pas été capable au dernier match, ça va être très difficile d'aller chercher un gros résultat. Et même du côté de Laval, même chose. On a eu de la misère à installer un jeu au sol durant les derniers matchs. On avait eu un peu plus de facilité en milieu de saison. Est-ce qu'on va être capable de l'installer? Ça va être important encore une fois, parce que si on n'est pas capable d'installer un jeu au sol avec la température qu'il va faire, avec le froid, avec le vent, avec peut-être de la pluie, ça va être un match qui va être difficile pour Arnaud Desjardins. Si on est unidimensionnel dans ce genre de température-là, ça va être vraiment difficile. Et encore là, est-ce que la deuxième clé, selon moi, c'est savoir est-ce qu'on va avoir une équipe qui va être assez forte du côté de l'attaque aérienne? Est-ce qu'on va avoir une équipe qui va avoir des jeux explosifs aériens pour faire la différence? Parce qu'on sait, c'est le genre de match qui se termine 19-12, 19-16. Donc, est-ce qu'on va avoir une équipe qui va aller chercher ce gros toucher-là pour aller gagner le match? Peut-être. Ça va être vraiment de voir est-ce qu'il y a un des deux groupes de receveurs qui va faire la différence contre les deux tertiaires qui ont eu un peu de difficulté durant l'année, mais qui ont progressé, des gros joueurs des deux côtés, Maxime Lavallée du côté de Laval, Calvin Saint-Cyr du côté de Montréal. Est-ce qu'il y a un des gros receiving court qui va être assez bon pour dominer? On parle de Kevin Mittal du côté de Laval, mais on n'a pas parlé d'Hassan Dessault qui vient de revenir, qui a eu une année folle l'année passée, mais qui a été blessé cette année. Vraiment hâte de voir de ce côté-là. Et après ça...
Tu parles des clés. Moi, j'ai la météo là, qui va pas être belle. Si je comprends bien, il n'y a pas vraiment une équipe qui est avantagée par
pas
ça.
Vraiment,
c'est l'équipe qui va réussir à mieux gérer l'environnement, dans
exact.
Le fond. Là.
Moi, je pense qu'il n'y a pas d'équipe qui va être avantagée par ça. Ça va être plus de voir est-ce qu'il y a une équipe qui va être capable de jouer, de bien appeler ses jeux pour gagner ce match-là. Parce que je pense que les deux équipes sont capables de gagner dans la pluie. Ont une assez bonne défense pour arrêter le jeu au sol des deux équipes. Mais quelle équipe pourra installer son jeu au sol? Est-ce qu'il y a une des deux équipes qui va être capable de faire des jeux truqués, peut-être? On en a vu souvent entre le Rougeur et Montréal. C'est le genre de jeu que Glenn adore faire dans ces genres de situations-là pour surprendre son adversaire. On en avait vu un contre Montréal à Montréal. On en avait vu un l'année passée. T'sais. On en voit souvent ces deux équipes-là sur des bottés, sur des affaires comme ça. J'ai hâte de voir si Glenn ne va pas sortir un lapin sur le chapeau. Ça va être vraiment aussi ce genre de questions-là qu'il va falloir se poser. Est-ce qu'un des entraîneurs va pouvoir avoir out-coaché l'autre? T'sais, c'est aussi ça. Là. Si Marco Iadeluca est assez surprenant pour défaire la défensive du Rougeur, ça va peut-être être difficile pour le Rougeur de continuer à être pas à pas avec Montréal tout le match. Et même chose du côté de Laval. Si on est capable de out-coacher Marco Iadeluca et qu'on est capable de dominer la défensive de Montréal comme on l'a fait il y a quelques semaines, ben encore là, ça va être difficile pour une des deux attaques de suivre le rythme de l'autre.
C'est sûr, on a deux équipes qui sont au sommet. Il n'y a pas... Le Rougeur a fini premier, mais il n'y a pas une équipe là, qui...
Non,
on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une domination.
Non,
là.
Je pense qu'on s'attend à un match serré. Glenn Constantin veut pas un match serré, veut un match le moins serré possible,
c'est
pour être le moins serré, pour le moins stressé possible. Mais on le sait. Là. Même si le Rougeur a gagné 22-3, je m'attends aucunement à ce genre de résultat-là. Surtout que on a des gars comme Hassan Dessau qui sont de retour. La ligne à l'attaque est complètement remaniée du côté de Montréal. Je pense pas qu'on a la même attaque. Et Glenn Constantin l'a dit aujourd'hui, il a accordé aux journalistes que c'était une équipe complètement différente. Et il n'a pas le choix de le faire. Avec tout ce qui est différent dans cette attaque-là, tu peux pas dire que c'est la même attaque. Et Glenn Constantin doit trouver une façon de les arrêter. On verra s'il est capable de le faire. Laval, je pense qu'a été assez chanceux du côté de la santé de ses joueurs. L'année passée, à la Coupe Dunsmore, on avait des gars comme Alec Poirier qui était blessé, ou Jean-William Rouleau qui avait manqué le match, mais Poirier qui avait une main dans un plat qui était vraiment pas à 100%. Deux joueurs là, que sur le jeu au sol, là, quand on compte le jeu au sol, qui sont primordiales. Donc, si on peut avoir ces deux gars-là en santé, ça va faire une grosse différence contre Bertrand Beaulieu. Donc, Montréal qui se retrouve à être en santé en fin de saison avec des joueurs qui reviennent, Carl Chabot, Hassan Dessau, Justin Langlais, c'est des joueurs qui sont à un haut niveau. On verra s'ils sont peut-être un peu rouillés, ont manqué quelques matchs, ont peut-être pas joué autant de matchs qu'ils auraient voulu cette année. Est-ce qu'ils vont manquer peut-être de répétition? Moi, je pense pas. Dessau, c'est un joueur exceptionnel comme Mittal. Même chose pour Carl Chabot. C'est des armes qui sont importantes pour Jonathan Senecal. Puis je pense que ça va faire une différence. Le Jonathan Senecal qu'on a vu il y a 3 semaines, c'est pas le même Jonathan Senecal qu'on va voir demain. Donc, très intéressant de voir ce qui va arriver.
Tu me parlais des clés. Est-ce qu'il y a d'autres clés pour le match?
Ben, je pense que la dernière clé, on a parlé de la météo, qui en était une aussi. Mais la dernière clé que j'aurais à mentionner, c'est celle de la discipline. Quelle équipe va être capable d'être la plus disciplinée? C'est toujours cette question-là qui est à se poser parce que Montréal est reconnu pour être moins discipliné, Laval est reconnu pour être plus discipliné. Est-ce qu'on va avoir une équipe qui va se retrouver sur des terrains glissants? On sait, il y a des pénalités qui sont difficiles à contrer, des pénalités des pénalités de retenue, des pénalités comme ça qui peuvent arriver dans le match, mais des pénalités après des sifflets de rudesse, des pénalités antisportives qui vont donner 15-10 verges à l'autre équipe. Il donnait des grosses parties de terrain, c'est là que ça va faire mal. Glenn Constantin veut assurément empêcher son équipe d'avoir ce genre de pénalité-là. Et justement, la lutte de la discipline va être importante. J'ai hâte de voir ce que Montréal va faire. Est-ce que Montréal va changer leur plan de jeu? Parce que Montréal, on sont reconnus pour être très intenses. Des fois, avoir des rudesses comme ça leur arrive. Donc, j'ai hâte de voir si on va changer un peu le plan pour éviter ce genre de jeu-là, éviter ce genre de pénalité-là. Parce que selon moi, c'est une clé importante. Si on a 200 verges de pénalité, je vois pas comment on peut battre Laval.
Tu parlais, en terminant, là, tu parlais de Justin Langlais.
Ouais.
J'ai joué au basket avec lui au cégep.
Ah, ouais, okay.
Il est passé du cégep. Il a joué une année dans le fond au basket. Il a changé à Sainte-Foy. Il a transféré à Garneau pour se concentrer sur le football. Ouais. Visiblement, c'était une bonne décision. Là, il se retrouve receveur d'une des meilleures équipes au pays.
Ouais, ouais.
Comment sa saison? Je sais que la saison dernière, il n'a pas joué beaucoup.
Ouais, il était blessé cette année. Marco Iadeluca avait l'air d'avoir hâte de le revoir. Donc, c'est probablement un joueur qui va pouvoir du terrain demain. Il n'a pas vu beaucoup de terrain depuis le retour de sa blessure. On verra s'il est plus utilisé durant le match contre Laval. Mais c'est un joueur quand même assez intéressant pour Montréal pour les années futures aussi. Quand des gars comme Dessau vont partir, ça va peut-être être le joueur qui va prendre sa place. Bien hâte de voir ce qu'il va donner. Mais ouais, c'est un petit gars de Québec qui va avoir un impact, qui va être gossant pour les joueurs de Laval dans les prochaines années.
Ouais, ben probablement lui qui a dû grandir en plus en prenant pour le Rouge et Or.
Ouais,
là,
ouais,
c'est, ça doit toujours faire drôle. Évidemment, quand tu transfères, là, que ce soit des joueurs de Montréal qui viennent jouer pour Laval ou des joueurs de Québec qui s'en vont jouer pour les Carabins ou autres. Mm. Rendu dans ton équipe, là, tu te mets à détester l'autre équipe, il n'y a pas de question.
Ouais. Mais ça va être vraiment intéressant. Puis pour finir, on avait aussi un gars comme Nicky Farinaccio qui était présent durant la conférence de presse. Et lui, tout le contraire de Mittal durant cette conférence de presse-là, était pas mal plus expressif, se sentait pas mal plus à l'aise devant les journalistes, on va le dire comme ça. Pour le citer, là, je vais retrouver ce qu'il a dit durant la conférence de presse. Lui, il passait à 2 sacs de battre le record de la RSEQ. Jouait contre Éloi la tendresse Réchimbal, qui était justement là durant la conférence de presse, recrue de l'année, cette année, dans la RSEQ. A dit justement, en parlant de ses sacs, en parlant de est-ce qu'il pensait pouvoir atteindre ce plateau-là durant le match contre McGill il y a 2 semaines, a dit que il savait que ça s'en venait, il savait qu'il pouvait y arriver, mais il a dit, je cite, « Mais cet esti-là, il est difficile à plaquer. He's slippery, you know. » Fait qu'il avait l'air, devant les journalistes, devant tout le monde, devant tout l'état-major du Rougeur. Donc, Elle avait l'air très à l'aise devant le journaliste.
En fait, un peu un Kevin Mittal de lui-même.
Ouais, mais un Kevin Mittal, mais un peu moins formel. Parce que Kevin Mittal, tu sais, veut pas. On parle de lui comme un gars qui a des paroles épicées parfois, mais tu sais, c'est un genre de joueur qui fait ça sur le terrain, quand personne l'entend. Là, devant le journaliste, c'est un peu plus tricky des fois d'accepter ce genre de propos-là. Mais c'est le personnage aussi de Farinaccio. Ça fait qu'on l'aime encore moins du côté de Laval quand il vient nous dire ça.
Ah, ben c'est sûr. Là. Mais écoute, c'est ça qui crée les rivalités.
Ouais, exact.
Est-ce que tu as une prédiction, toi, pour le match de demain?
Je vais y aller encore une fois avec mon cœur. Je pense pas que ça va être un match avec beaucoup de points. Avec la température qu'on annonce, je pense pas qu'on va avoir beaucoup de points. Je serais prêt à dire un espèce de 12-10 Laval, là, un espèce de match un peu d'échec là, où on va voir deux équipes se redonner le ballon là, un peu... comme ça, là, puis un match avec beaucoup de placements peut-être, des placements courts ou des... Tu sais, soit avec beaucoup de placements ou avec plusieurs touchés de sûreté ou des affaires comme ça. Donc, un match... j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner demain. Ça va être vraiment intéressant.
De mon côté, je vais pas y aller avec mon cœur. Je vais y aller avec la meilleure équipe. Donc, Laval va gagner.
C'est bon, ça.
Je prédis. C'est purement rationnel.
Moi aussi, c'est rationnel. Mais mon cœur est la meilleure équipe.
Ouais, c'est ça. On s'entend que c'est une combinaison des deux.
Ouais.
Mais moi aussi, là, je pense que ça va être un match. Je prédis 13-7. Je me lance.
Ouais.
C'est Laval-Montréal dans les dernières années. Puis toujours aussi, là, c'est des matchs excitants, mais... pas des gros festins offensifs.
Exact.
Là.
Encore plus, c'est jamais des festins offensifs. Puis là, avec la température qu'on va avoir, ça s'enligne pas pour être... En tout cas, si j'étais preneur au livre, je mettrais pas beaucoup d'argent sur beaucoup de points dans ce match-là. Je sais pas ça serait quoi l'over-under, là, mais si ça serait plus que si c'était plus que 30 ou 40 points, je pense pas que j'irais over, mettons. Là,
non,
je mettrais
pas beaucoup d'argent.
Ouais,
écoute, c'est ce qui conclut notre segment sur la Coupe d'Onsmore. Le match demain à 14h sur les ondes de Chiz 94.3. Victor va être à l'analyse,
ouais.
Donc vous pouvez aller l'écouter ou encore mieux être sur place, ou encore mieux être sur place et l'écouter dans vos oreilles. Sinon, les filles du Rouge et Or, comme on a mentionné tantôt, sont en demi-finale du championnat canadien ce soir à 18h30 au stade TELUS.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
En passant par des films marquants de films aux paroles de chansons remplies de meaning, Pop Analyse, on est une émission où on décortique des œuvres créatives et les nouvelles du monde de la pop.
On est là pour discuter et donner nos impressions sur de multiples sujets, mais surtout pour t'apprendre des fun facts sur le monde créatif qui t'entoure et que tu te couches moins niaiseux.
En passant par des scènes marquantes de films aux paroles de chansons remplies de meaning, Pop Analyse, on est une émission où on décortique des œuvres créatives et les nouvelles du monde de la pop.
Allô tout le monde, c'est Mathieu Dufour, fier porte-parole de l'Opération Nez Rouge. C'était impossible de faire une pub radio sans que je fasse une chanson. Fait que ça part! Mario est bagorlo, José est sur le party, Robert y voit plus clair, y'a personne qui peut chauffer. Le Carole à bénévole qui débarque en fin de soirée pour les raccompagner en toute sécurité. 1-8-6-6, Desjardins! Faites-moi confiance, la gang, venez l'essayer. Opération Nez Rouge, là, vous pourrez plus vous en passer. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station.
Le théâtre Périscope présente...